Chers amis, donc je vous propose, avec un petit peu de retard, de commencer cette séance qui est donc organisée par le fonds de dotation de notre école, le fonds de dotation de l'EHESS, donc, dont j'ai l'honneur d'être le directeur général, et Pierre-Cyril Auqueur, donc le président, au titre de président de l'école. Je vous remercie de sa présence. Avant là, nous avions eu avec... Donc Déborah Furet, qui s'occupe avec moi du fonds de dotation, nous avons eu donc l'idée, l'envie cette année, donc d'organiser avant la remise donc des bourses d'accomplissement aux lauréats des différents concours du fonds de dotation de cette année, nous avons eu l'envie et l'idée d'organiser donc une petite table ronde très informelle autour de cette notion, autour de ce thème recherche roman expérience de l'écriture. Et donc avec en fait en dehors de moi-même qui suis donc modérateur aujourd'hui, trois intervenants dont une donc malheureusement était coincée dans les embouteillages, mais elle va nous rejoindre normalement, donc Gloria Origi, donc qui est donc chargée de recherche au CNRS, philosophe de l'Institut Jean Nicot, philosophie spécialisée de philosophie de l'esprit, d'épistémologie sociale, de philosophie des sciences sociales, mais aussi auteur d'un ouvrage de fiction, La Figlia della Gallina Nera, donc la fille de la poule noire, paru à Rome en 2008. Nous n'avons malheureusement pas de traduction en français, et donc qui a franchi au moins une fois la barrière donc qui sépare, ou le no man's land, ou la frontière qui sépare donc une écriture de sciences sociales au sens large et une écriture de fiction. Deuxième invité, à ma droite, Richard Reichmann, donc directeur d'études à l'école, membre de l'IRIS, directeur du LAPEX TEPSIS, psychiatre des hôpitaux et en même temps anthropologue des subjectivités, anthropologue de la psychiatrie contemporaine, et qui a écrit notamment avec Didier Fassin un ouvrage qui a été vraiment très remarqué en 2011, L'Empire du traumatisme. Mais lui qui s'occupe sur le plan clinique depuis des années, de rescapés du génocide qui s'est produit au Cambodge à partir de 1975, a écrit également un roman, donc Les Vivantes, paru en 2013, et lui aussi donc a franchi cette barrière qui sépare l'écriture des sciences sociales d'une écriture donc de fiction, une écriture fictionnelle. Et puis sur ma gauche donc Pierre Lemaître, que je remercie particulièrement d'être venu, c'est la deuxième fois qu'il vient dans cet amphithéâtre. La dernière fois, c'était un peu autour du centenaire de la Grande Guerre en 2014. Donc, prix Goncourt en 2013 pour son livre Au revoir là-haut. Mais son œuvre, avant le prix Goncourt et après, évidemment, est beaucoup plus importante. Il vient de publier un nouveau roman noir, Trois jours et une vie. Donc, il y a, je crois, un mois ou un mois et demi. Et ce qui est, dans le cas de Pierre Lemaître, c'est un cas un peu inverse. Donc lui, le romancier, donc lit les historiens, a beaucoup lu les historiens de la Grande Guerre pour l'écriture d'Au revoir là-haut. Et donc, je l'interrogerai en quelque sorte dans l'autre sens, à fond renversé, c'est l'utilisation d'une écriture de sciences sociales et son importation, si l'on peut dire, dans la fiction. Voilà. Alors. Commençons donc peut-être avec Richard Reichmann. Donc je me souviens d'un débat avec lui autour de son livre donc Les Vivantes, où il me disait, mais au fond, si j'écris ce livre, c'est parce que je ne pouvais pas parler de l'expérience accumulée dans l'expérience clinique accumulée avec des rescapés cambodgiens. Je ne pouvais pas en parler sous la forme d'un discours de sciences sociales, d'une écriture de sciences sociales, et donc j'ai été en quelque sorte obligé de passer au roman. Voilà. Donc peut-être pourrais-tu nous développer un peu ce point qui me paraît évidemment très important. Qu'est-ce qui se joue, bien sûr, dans ce passage d'une écriture dans une autre?
Alors, je sais pas si ça... Oui, ça marche. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, pour dialoguer avec vous sur ces questions qui, évidemment, me tiennent à cœur. Alors, à la question que tu poses, pourquoi, comment, je pourrais donner une réponse très simple et très rapide. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai vraiment pas fait exprès de devoir emprunter ce type d'écriture. Comme tu le disais, je me suis senti ne pas avoir le choix. Alors, ça veut dire quoi, quand même, ne pas avoir le choix? Ça veut dire que je disposais d'un certain nombre de matériaux que j'avais recueillis en presque 30 ans de clinique avec des réfugiés cambodgiens. J'avais publié pas mal de choses d'un point de vue académique, d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue anthropologique. J'avais également travaillé aussi sur des génocidaires. Donc, je disposais de beaucoup de choses qui avaient été utilisées. Et puis, il me restait plein de choses, un reste. Alors, ce reste, je ne saurais pas le qualifier si ce sont des choses intellectuelles, si ce sont des sources, des données. C'était plutôt des choses physiques, des cauchemars, une présence permanente des morts des uns et des autres, un envoûtement, pourrait-on dire, et dont j'avais absolument besoin non seulement de me débarrasser, mais surtout d'en rendre compte. Et d'en rendre compte par une écriture qui permette de transmettre l'expérience que j'avais entendue, qui devenait mon expérience. À force d'entendre des récits, eh bien finalement, on a l'impression que sa propre vie est équivalente à celle de tout ce qu'on a entendu. Alors comment est-ce que l'on peut rendre compte de cela? Tu as utilisé à plusieurs reprises un terme, puis un autre, celui d'écriture, celui de roman, celui de fiction. Le terme de roman, pour mon texte, je ne sais pas si je le revendiquerai. Le terme de fiction, probablement, à une condition. À une condition qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de fiction, et je pense que ça va être aussi un élément de discussion entre nous, puisque il n'y a pas que des universitaires dans la salle.
Heureusement.
Mais je vais devoir vous révéler un secret pour ceux qui ne sont pas universitaires. Les universitaires mettent quand même de la fiction dans leurs textes.
Tu ne devrais pas dire des choses comme ça.
Mais, tout le monde. Premièrement, ils ne le savent pas toujours, donc ça les excuse. Et très souvent, ils ne le disent pas. Ça les excuse moins. Encore que c'est même pas vrai. Puisque on est obligé de fictionnariser les choses. Quand vous relatez une ethnographie, je suis anthropologue, quand vous faites une ethnographie, même si vous livrez un verbatim, la façon dont vous allez le mettre en scène est une fictionnarisation. Donc on accepte volontiers qu'il y ait de la fiction dans l'écriture scientifique. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? C'est que les auteurs ont l'honnêteté de dire « moi, l'anthropologue, moi, l'historien, moi, le philosophe », quand ils utilisent le « je » ou le « moi ». Et donc, il me semble que la fiction que l'on retrouve dans le livre que j'ai écrit, c'est quand je dis « je », c'est pas moi. Et alors, effectivement, c'est peut-être ce moment-là où on va pouvoir parler d'une fiction, c'est-à-dire que le « je » qui s'énonce n'est pas celui de l'auteur qui écrit les lignes. Même si j'avais le sentiment, en écrivant ce « je », qui était celui d'une Cambodgienne, pas le même genre, pas la même origine ethnique, pas la même histoire, pourrait-on dire. C'est précisément, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'avais été envoûté par tous ces discours et qu'il me semblait simplement naturel de les restituer à la place où ils avaient été exposés. Donc de ce fait, j'ai fait pour moi une ethnographie. Une ethnographie de l'intime qui nécessitait un jeu qui ne soit, pour le coup, sur le moment, pas le mien. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est un roman? Je n'en sais rien.
Bon, on ne le saura pas ce soir, de toute façon, mais alors, Pierre Lemaître, donc, la situation inverse. Le recours aux historiens qui m'a, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, qui nous a beaucoup frappé, nous, les historiens, quand on a lu, quand on a découvert, donc, Revoir là-haut, historiens que nous connaissions, et la manière dont on a été métabolisé, en quelque sorte, tout un travail historique, en particulier sur les morts, sur le deuil, sur la mémoire. Qu'est-ce que tu en dis?
D'abord, je voudrais vous remercier de votre accueil. C'est la seconde fois que je suis accueilli dans cette maison, que j'aime beaucoup. Et donc, seulement, je suis content d'être avec vous, mais en même temps, je suis un peu flatté, n'est-ce pas?
Je suis bien à ta place.
Voilà. Bah oui, voilà. Bon, cela dit, je ne vais pas non plus en faire trop, parce que ça commence très mal, ce débat. J'apprends que les sciences sociales, que les chercheurs font de la fiction, c'est-à-dire viennent bouffer sur mon râtelier. Et franchement, je vais le prendre un petit peu mal, parce que je pense que chacun doit rester à sa place. Et je vais essayer de vous expliquer, moi, de quelle manière je reste à la mienne. Le sujet que j'avais sur la Grande Guerre nécessité des recherches historiques, et je me suis donc beaucoup documenté, j'ai lu beaucoup de choses, et vraiment beaucoup, tellement de choses, même que j'ai une fille de 6 ans, et quand j'ai commencé à ne plus la voir passer au-delà de mon bureau parce que la documentation était trop importante, je me suis dit, bon, là c'est le moment de s'arrêter, hein, c'est quand on voit plus ses enfants, c'est que la documentation est devenue trop imposante, et je me suis rendu compte qu'en fait je l'utilisais mal. cette documentation parce que, en fait, elle me servait d'anxiolytique. Et c'est pas vraiment pour ça qu'on écrit de l'histoire, c'est pas pour servir d'anxiolytique aux écrivains. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je prenais de temps à me documenter, plus je reculais le moment de me mettre au boulot parce que j'étais impressionné par mon sujet. Et qu'au fond, la documentation historique, elle me servait à reculer le moment de me confronter à mon sujet. Donc à un moment, j'ai mis tout ça par terre et j'ai dit, on va maintenant essayer de se lancer dans le vrai travail. Mais du coup, j'avais accumulé beaucoup, beaucoup de choses. Et la grande question que je me posais, enfin, j'essaie de me recentrer là maintenant par rapport à la question que tu poses, c'était de savoir de quelle manière j'allais l'utiliser. Et moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il y avait à faire... en ce qui concerne le romancier, une distinction claire entre l'exactitude et la vérité. C'est-à-dire, l'exactitude, pour tout vous dire, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que il y a dans mon livre, je crois, beaucoup d'inexactitudes formelles, ponctuelles, et que, franchement, les boutons de guêtre ne sont pas ma tasse de thé, et que je suppose qu'il y a dans mon livre un très grand nombre de choses inexactes, pour une raison simple, si je ne sais pas. J'ai pas calculé, hein, je l'ai pas fait volontairement.
C'est déjà ça.
Oui, non, c'est pas, voilà, c'est pas, j'ai pas voulu simplement faire œuvre d'originalité ou même mentir ou me distancier de la réalité de manière volontaire. C'est parce que si ça me vient sous la plume, je l'écris et je me soucie pas trop de l'exactitude et du détail près. En revanche, la vérité, et c'est là où le travail des historiens m'a été absolument indispensable, c'est que La vérité, c'est, enfin, ce que j'appelle moi la vérité, alors chacun son mot, c'était un mot de romancier ça, c'est l'idée que je ne pouvais pas donner de la période que je décrivais un portrait dont les historiens m'auraient dit c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, ce que vous mettez dans la tête des gens c'est pas du tout ce qui était dans leur tête à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je t'ai rencontré. On va raconter une anecdote comme ça. C'est que il me semblait que c'était vraiment important que les historiens qui lisent le livre, ils pouvaient me dire qu'ils n'avaient pas aimé le livre. Ça, c'est tout à fait le droit. J'ai pas aimé votre livre. Mais ce qui m'aurait vraiment blessé, parce que ça n'aurait pas été conciliable avec ma conception avec la conception que j'ai de mon métier, c'est de me dire, là, vous avez tordu le cou à l'histoire. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Globalement, c'est-à-dire la vérité de l'époque, c'est-à-dire les mentalités, la tonalité. Voilà. Est-ce que ce que je faisais dire à mes personnages, c'était crédible, alors qu'après, ils roulent pas dans la bonne voiture, qu'ils aient pas les bons boutons de guêtre, c'était une autre paire de manches, qui était pas d'ailleurs du tout, la mienne. Et j'avais très très peur de la première rencontre avec un historien. Parce que je me suis dit, le moment de vérité, c'est quand je vais me retrouver en face du premier, qui va me rentrer dans le chou en me disant, écoutez, j'ai lu votre livre, c'est un tissu de nannerie. Et là, je me suis dit, je vais passer un sale quart d'heure. Et ça s'est trouvé, à France Culture avec Stéphane Audouin-Rousseau. Tu n'étais pas le seul, hein. C'est une émission avec Emmanuel Laurentin. Et je vous cache pas que je suis arrivé à cette émission avec un trac fou, parce que c'était le premier moment où j'allais me confronter à un historien. Je me suis dit, bon, c'était juste après le Goncourt. En plus, il y avait peut-être le plaisir de s'offrir un prix Goncourt. Vous voyez,
la mesquinerie académique n'ayant aucune borne.
De se payer le Goncourt, j'avais dit à mon épouse.
La jalousie, surtout.
Oui, peut-être. Enfin, je l'espérais. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'accueil que tu as eu, la gentillesse de me faire, et de me confirmer qu'au moins, je m'étais pas trompé sur la vérité historique. Alors, du coup, ça m'amène, et je vais m'arrêter là, je vous raconterai d'autres choses après si le débat le permet, c'est de savoir où cette notion de vérité, quelle est sa borne ? Quelle est sa borne ? C'est-à-dire, ce qui me gênait un peu dans la théorie de soyons distants par rapport à l'exactitude, mais soyons scrupuleux par rapport à la vérité, c'est où ça commence et où ça s'arrête. Parce que si on s'affranchit de la vérité, on peut absolument tout se permettre. Au fond, le révisionnisme, c'est simplement une des modalités d'affranchissement par rapport à la vérité. Or, ça serait inconciliable, là pour le coup, avec ce que je suis, que un de mes textes puisse courir le reproche, par exemple, d'être révisionniste. Donc, la question de la vérité, c'est de savoir où on met le curseur, à partir de quand vous estimez que vous pouvez vous affranchir de la vérité. Et selon moi, parce que je ne suis pas un chercheur, parce que je ne suis pas un universitaire, et que je suis simplement un romancier, c'est-à-dire un gars qui raconte des histoires, eh bien, je pense que cette frontière est une frontière morale. C'est-à-dire que c'est l'analyse de la situation historique qui me fait dire que moralement, j'ai le droit de m'en affranchir ou que moralement, je n'ai pas le droit de m'en affranchir. C'est-à-dire, il y a des choses que je peux dire. J'ai pas l'impression que moralement je commets une mauvaise action. Si je suis en dehors de la vérité historique, si je l'arrange, comme disait Dumas, hein, on me reproche d'avoir violé l'histoire, mais je lui ai fait de beaux enfants. Donc moi, j'essaye aussi de faire des beaux enfants à l'histoire. Mais en revanche, il y a des frontières morales que je ne veux pas dépasser, parce que cette fois-ci, j'aurais l'impression de commettre quelque chose qui serait moralement inconciliable avec la manière dont je veux travailler. Donc voilà, je navigue entre exactitude, vérité et question morale. Bon, c'est un peu prétentieux, mais globalement, c'est à peu près ça, quoi.
Eh ben, c'est déjà pas mal, effectivement. Et après tout, je me souvenais pas de cette tension qui était la tienne dans ce débat à France Culture. Je n'ai pas un souvenir très net, mais je crois qu'il...
Tu te souvenais pas de ça? C'est vexant, là, pour le
coup. On a débattu plusieurs fois, et tout finit par un petit peu se superposer. Mais je pense que, justement, ce qui est très important pour des historiens, c'est de ne pas adopter, évidemment, une posture vis-à-vis de l'écriture des autres, hein, et d'autres écritures sur leur objet. La Grande Guerre appartient pas seulement aux historiens, elle appartient, en l'occurrence, à tout le monde. De ne pas adopter une posture de vrai et de faux et une posture de pion. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, comme toi, je me moque éperdument des questions d'exactitude dans ton roman. C'est tout à fait évident, de même que pour Jean Rouault, par exemple, qui s'est complètement trompé dans son très grand livre, Les Champs d'honneur, prix Goncourt, en 1990, qui s'est complètement trompé sur les questions des gaz de combat, ça n'a évidemment, je le dis d'ailleurs souvent, ça n'a strictement aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est un très grand livre, exactitude ou pas. En revanche, la question de savoir si chacun doit rester à sa place, je trouve que c'est une question que nous pouvons tous nous poser. Justement, un point que j'aimerais revenir un peu vers toi, Richard, sur cette question, quand même sur cette question de l'écriture. Parce que tu peux pas t'en sortir, si je puis dire, uniquement en disant voilà, il y avait tout un ce que tu dis très bien, il y a un reste de toute façon, il y a de la fiction dans les sciences sociales, je suis bien d'accord avec toi, tous ceux qui la pratiquent le savent. Une fictionnalisation à un moment ou à un autre, ne serait-ce que par les choix qui sont faits de retenir ça plutôt qu'autre chose. Finalement c'est commode, vous voyez, je passe de l'autre côté, mais le moment où tu passes, c'est pas la même écriture, il y a la décision du passage, et qu'est-ce qui se joue dans le basculement d'une écriture dans une autre? Est-ce qu'il se joue quelque chose ou pas? J'en ai pas l'expérience, parce que moi j'ai jamais fait de fiction, j'ai fait un récit personnel autour de la Grande Guerre qui est justement non fictionnel. J'ai essayé d'enlever toute fiction, enfin, pas de fictionnalisation, mais toute fiction. Alors comment l'écriture se fait? C'est une question que je poserai aussi à Pierre Lemaître. Qu'est-ce qu'il pense de l'écriture des historiens? Et qu'est-ce que ça veut dire de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, et d'en subir ou non l'ombre portée? C'est la question. Je voudrais si on pouvait centrer un petit peu sur cette question d'écrire.
C'est très juste la question que tu poses, et la façon que tu as de la poser est très juste, puisque c'est bien évidemment l'écriture qui va déterminer la façon de dire les choses. Et ce qui m'a posé problème à certains moments dans l'écriture académique, c'est que précisément elle contraignait le discours à utiliser une forme de preuve nécessaire pour atteindre ce niveau de vérité dont vous parlez. Et que dans le discours académique, dans l'écriture académique, pas dans la recherche, dans l'écriture académique, la vérité du discours vient de l'appareil critique et de l'appareil référentiel, qui est une chose tout à fait indispensable, et loin de moi l'idée de vouloir révolutionner ça. Mais c'est pas parce que ça existe que seul ça existe. Donc, dès lors qu'on a dit ça existe, et j'ai fait la preuve, je crois, de savoir l'utiliser, je me suis dit, le reste, il est toujours du domaine du chercheur, puisque je n'ai pas changé de casquette. J'en ai déjà trois, psychiatre, psychanalyste, anthropologue, ça me suffit. En prendre une autre, je ne saurais pas très bien où la mettre. Il faut une seule tête pour cela. Et donc, je n'ai pas changé de place. Et je suis ravi que vous me rappeliez à ma place, parce que moi, j'y suis. Elle est trop exiguë. Donc, j'élargis les bords. Mais je reste dans ma place. Et je pense que ça relève du travail de chercheur que de s'interroger de la façon dont son discours peut avoir un effet. On sait aujourd'hui que le discours académique a un effet grâce à l'appareil critique et à l'argumentaire. Mais dans l'écriture fictionnelle, ce que j'ai dû faire, eh bien, il y a un autre effet qu'il produit qu'on pourrait dire performatif. Est-ce que parce qu'il est performatif, il n'est plus scientifique? Je n'en sais rien. Mais il produit un effet, cette écriture, qui devient nécessaire. Alors pourquoi cette écriture nécessitait la fiction? Parce que, d'une certaine manière, pour que je puisse rentrer dans l'intimité de ce personnage, il fallait que je puisse révéler comment les choses se passent à l'intérieur de l'intimité, c'est-à-dire que le temps On ne sait pas très bien si c'est présent, si c'est passé. On ne sait pas très bien si les gens sont en train de rêver, s'ils font un cauchemar, s'ils sont en train de délirer. On ne sait pas très bien si c'est une hallucination, une vérité. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Comment écrire ça? Vous voyez, si je suis en train de dire « on ne sait pas très bien », on sait très bien. On ne sait pas très bien si on rêve ou s'il ne rêve pas. Moi, ça veut dire que je vous ai dit qu'il rêve sûrement, ou en tous les cas, vous avez un indicateur qui vous permet de penser ce que je pense de ce qu'il pense. Seule l'écriture fictionnelle permet de donner brut de décoffrage cette sensation où la différence entre le rêve et la réalité est complètement estompée. Seule cette écriture le permet. Je pense que c'est aussi une écriture scientifique différente, mais qu'elle va nécessiter un travail de la langue là que ne nécessite pas une écriture académique. C'est bien quand l'écriture académique a aussi ce travail de la langue, mais pour faire cet exercice-là, je crois que seul le travail de la langue peut le permettre.
Et Pierre, alors, l'écriture des historiens, alors, dont on ne parle jamais. Les historiens n'en parlent jamais, mais à l'extérieur du monde des historiens, puisque là, on est vraiment dans l'histoire, mais il est très peu fréquent de parler de l'écriture des historiens. Les historiens comment c'est fait? Comment c'est fabriqué? Ça t'intéresse ou pas?
Alors, moi,
je comprends très bien que ça t'intéresse pas
d'abord,
du tout.
Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Je réfléchis à cette notion de fiction à l'intérieur du travail historique. Et je crois que le meilleur exemple que je peux prendre, c'est l'un des travaux sur lesquels je me suis appuyé, qui est un article qui avait été écrit par une historienne, s'appelle Béatrix Pau, qui avait été publié, je crois, dans la Revue des Armées, et qui racontait le scandale des cercueils en 1922. Elle a fait sa thèse de doctorat sur... Et donc c'est cet article qui synthétisait un petit peu le travail qu'elle faisait dans sa thèse, m'avait beaucoup intéressé parce qu'il offrait des histoires. En fait, c'était une histoire qui offrait des histoires. Et quand je regarde la manière dont l'écriture fonctionne, je me dis que il y a une notion, je crois, qui peut peut-être permettre de séparer ce qu'est l'écriture de fiction dans l'histoire et ce qu'elle est dans le roman, c'est la notion de l'émotion. Au fond, lorsque j'ai lu les historiens de la Grande Guerre, dont tes ouvrages, j'étais frappé par le nombre de fois où on nous parle de destinée individuelle et où on fait naître des émotions, alors que le but n'est pas de faire naître de l'émotion. Il se trouve simplement que l'histoire rencontre en permanence l'émotion des peuples. Et que donc on a de multiples occasions de ressentir des émotions, positives ou négatives, alors que le récit historique n'est pas uniquement là pour ça. Il est là pour expliquer, pour analyser, pour informer. Il n'est pas là pour créer l'émotion. Ça, c'est le rôle du roman. Puisque dans le roman, l'émotion est le vecteur de la compréhension du texte, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'histoire. Et dans le travail de Béatrix Pau, je voyais se dérouler, au fur et à mesure où elle passait des cas individuels, je voyais des destinées qui étaient simplement filées dans le texte. Elle n'allait pas jusqu'au fond de la rencontre avec chacun des personnages, mais au fond son récit était en permanence peuplé de personnages qui pouvaient devenir des personnages romanesques à la condition que le statut de l'émotion change. C'est-à-dire qu'on ne rencontre plus simplement l'émotion, mais l'émotion devient le moteur du récit. Et à partir du moment où l'émotion devient le moteur du récit, c'est pour moi la bascule entre tout autre récit et celui qui est le récit romanesque. Je le dis parce que j'ai été très très souvent ému, touché, scandalisé en lisant des livres d'histoire, notamment sur la Grande Guerre, où on est en permanence remué par un tas d'informations. Simplement, l'émotion est un reste. Là, je reprends l'expression, je suis pas sûr que je l'emploie dans le même sens que Richard, mais c'est cette idée que l'émotion, on la rencontre partout, mais elle n'est pas le moteur des choses. À partir du moment où cette émotion, vous en faites le moteur, je crois que vous avez basculé dans la fiction pure, parce que c'est elle qui va conduire l'action, et c'est elle qui va rendre compte du fait historique.
À moins, Pierre, que les historiens de la Grande Guerre, évidemment, le sujet Grande Guerre est un sujet forcément puissamment affecté, puissamment chargé d'affect, soit plus pervers que tu ne l'imagines, et au fond, sache très bien que leur écriture, effectivement scientifique, ou en tout cas qui est un discours de vérité et qui ne souhaite pas s'en affranchir, même si évidemment des vérités contraires peuvent s'exprimer sur la Grande Guerre. Même si peut-être ces historiens savent, et notamment les historiens, disons, d'une génération nouvelle, ayant travaillé non pas sur les grands événements, mais plutôt sur les petits, dans une histoire d'en bas, dans une histoire justement des affects, dans une histoire des sensibilités, des représentations, sachent très bien qu'au fond, leur historiographie ou leur opération historique est chargée d'affects et qu'ils utilisent ces affects, au fond, manipulent, mais les utilisent, au fond, pour donner à leur discours un aspect plus performatif. Et je pense que c'est une hypothèse, donc, que ces affects, que cette émotion dont tu parles, soit moins un reste qu'un des moyens, qu'un des véhicules, plus consciemment utilisés, peut-être que tu le dis. Mais je ne sais pas ce que Richard en pense, parce qu'après tout, dans le cas du génocide au Cambodge, je sais si le discours historique, politique, est affecté. Hein, et qu'est-ce que cette question d'une écriture des sciences sociales, elle-même affectée, qui le sait mais qui ne le reconnaît pas, peut-être tu pourrais nous en dire un mot. Tu en as fait l'expérience.
Je trouve que là.
C'est effectivement spectaculaire. Je vous en prie. La parole.
Tous les préjugés sont confirmés contre les femmes et les Italiennes. Les femmes sont toujours arrêtées et les Italiens aussi. Donc,
bon, je ne répondrai absolument pas à cette provocation. Je ne suis pas en situation de le faire. Merci d'être là. Merci. Désolé pour ces embouteillages.
J'irai m'expliquer.
D'accord. Pour l'instant, on va continuer à donner la parole à Richard Eschmann, que vous avez très opportunément interrompu. Et sur ces questions des affects dans l'écriture des sciences sociales.
Les affects et les émotions sont partout. Hein. On peut même bouleverser un discours académique. Donc, il n'y a pas... La frontière n'est peut-être pas aussi nette que cela. En même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous indiquez là, qu'il y a une grande différence dans l'utilisation de l'émotion dans le discours universitaire et dans l'écriture littéraire. C'est précisément pour ça que moi j'ai souhaité emprunter cette chose à la littérature pour faire un discours académique. C'est-à-dire que je suis contre les monopoles, comme vous voulez qu'on reste à notre place, moi aussi. Et je pense qu'il faut sortir des monopoles. Et effectivement, cette trouvaille extraordinaire de la littérature qui consiste à mettre l'émotion au cœur du récit pour pouvoir véhiculer quelque chose, c'est quelque chose qu'à mon avis, les sciences sociales avaient trop souvent délaissé, considérant que c'était un reste, et qu'on pouvait justement le prendre comme, non pas comme un reste, mais bien comme un discours académique qui nécessitait, là pour le coup, une autre forme d'écriture. Alors, nombreux sont mes collègues qui pensent que c'est pas de la science, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça c'est les histoires de collègues.
Bon, alors, Gloria Oggi, donc maintenant qu'on vous tient, si je puis dire... Le débat a commencé, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes parmi nous, merci d'être là, sur ces questions de passage, au fond, d'une écriture de sciences sociales, au sens peut-être large, dans votre cas, donc philosophie de l'esprit, épistémologie sociale, philosophie des sciences sociales, en tout cas, à la charnière, donc philosophie et sciences sociales, et ce problème du passage, donc, de ce type d'écriture, à une autre, donc ce basculement vers une écriture donc fictionnelle à travers ce roman que j'ai cité parce que je vous ai présenté en fait longuement en début de débat pensant que ça allait vous faire rire, mais c'est une magie qui n'a pas opéré. Et donc peut-être pourriez-vous nous dire votre point de vue ici sur cette question du passage d'une écriture dans une autre qui est le centre de cette table ronde.
Juste pour me justifier, ce n'est pas seulement que je suis femme italienne, je suis toujours à l'État. Ça fait 13 ans que je suis une famille de sans-papiers. Et aujourd'hui, ils avaient leur rendez-vous pour leur papier, ils ne parlent pas le français, à Boulogne, à 2 heures. Et c'est très difficile de dire à des gens avec lesquels vous avez un rapport un peu de bénévolat, de dire, maintenant j'ai un rendez-vous, je vous laisse tomber. Donc c'était un peu embarrassant, donc je me suis trouvée jusqu'à la dernière minute. Mais donc mon excuse, c'était compliqué de les laisser tomber. Enfin. Donc j'ai couru ici, j'ai réfléchi quand même à la question, même en absence. Et c'est vrai que moi, j'ai une double vie. d'écrivaines et d'universitaires, de chercheurs au CNRS, et donc engagées dans la philosophie des sciences sociales et l'épistémologie sociale. Pendant longtemps, ces deux vies étaient complètement séparées, une secrète à l'autre. Je faisais pas de outing dans un milieu ou dans l'autre de mon autre vie. Et les deux langages étaient très, très séparés. Il me semblait que j'avais besoin de cette vie littéraire, que j'ai d'ailleurs à laquelle j'ai donné une forme en 2008, en publiant une espèce d'autobiographie en termes comme un lexique, un dictionnaire de mots de mon enfance. Mais dans les derniers ouvrages des sciences sociales que j'ai publié, de philosophie et sciences sociales que j'ai publié, que La Réputation, qui s'appelle La Réputation, c'est un essai. Et qui est sorti en 2015 chez PUF, je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais évolué, j'avais réussi à laisser un espace aussi à cette voie plus personnelle, aussi dans les sciences sociales. Et je partage le peu que j'ai pu entendre de votre propos. Je vois de moins en moins cette séparation nette. Bien sûr, il y a des langages, il y a des genres. On est tous aussi apprendre un métier, c'est aussi apprendre les règles du jeu, de comment s'exprimer dans ce métier, quelles sont les formes. Et voilà, ce qui fait partie des. Et je veux dire, les formes et les contenus ne sont pas toujours séparables d'une façon nette, enfin. Mais c'est vrai que, disons, je pense que l'apport de l'expérience personnelle, de sa propre voie, enfin, trouver une voie aussi dans l'essai social signifie trouver une façon disons, de traverser, de parcourir certaines questions avec... un regard qui reste unique, qui est le regard qui nous a amenés là, à cette recherche. Et ça, c'est spécial. Je pense que c'est une peculiarité des sciences sociales.
Mais alors, pour cette autobiographie, c'est une question qui m'intéresse vraiment de très près, personnellement. Mais pour cette autobiographie, est-ce que c'est une autobiographie, au fond, où vous tenez au plus près de ce qui est pour vous le vrai, la vérité, les faits, même si bien entendu, je suis bien entendu que tous ces faits de l'enfance sont subjectivés ou très puissamment subjectivés, ou bien est-ce que c'est une autobiographie qui elle-même bascule et consciemment dans la fiction ? C'est une question importante. J'ai essayé moi-même de faire une sorte d'autobiographie autour de la Grande Guerre. Je me suis absolument interdit tout passage à la fiction. C'est presque une coquetterie et c'est peut-être une erreur. Vous, comment vous avez fait et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans le choix fiction ou non ?
Pour moi, cette autobiographie, c'était une sorte de thérapie. Moi, je suis une Italienne qui vit depuis longtemps à l'étranger. Je suis partie de l'Italie aussi pour des raisons personnelles. Enfin, j'avais perdu ma mère, j'étais un peu paumée à 20 ans, comme ça, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et en France, j'ai passé des années à étudier des textes anglo-saxons. J'ai commencé ma carrière en écrivant un livre sur un philosophe américain qui s'appelle Quine. Enfin, donc j'étais immergée en France dans la langue anglaise. Donc j'étais aussi un ovni ici. Enfin, j'étais peu. Mais j'ai un rapport très fort avec ma langue, mon italianité. Enfin, un pays d'une certaine façon que je n'ai jamais vraiment mentalement quitté. Et long séjour aux États-Unis en 2005, en rentrant en Italie l'été, j'avais l'impression que j'avais perdu une espèce de spontanéité avec l'italien. C'était bien sûr ma langue, la seule langue où je me sentais, c'est ma langue maternelle, même si ce concept, on sait bien, c'est un peu artificiel, mais en fait, j'avais plus la même... c'est comme si les mots me résonnaient en tête, un peu comme le français, un peu comme l'anglais. Et donc, j'ai commencé à m'inquiéter. Je dis là, je suis perdue déjà, je suis paumée pour plein de raisons. Là, je suis perdue complètement. J'ai plus de nations, j'ai plus de patrie, j'ai plus de traditions philosophiques claires. Enfin. Et en fait, j'ai commencé à écrire pour mon partenaire à l'époque, qui vraiment, on ne partageait rien. Pour lui, la culture milanaise du nord de l'Italie,
c'est formidable, c'était. Ouais.
Non, mais on s'aimait énormément, sans rien partager. Peut-être que c'était l'amour idéal.
Ouais. C'est la bonne condition. C'est la bonne condition.
C'est pas le sujet du débat. C'est pas le sujet du débat.
Et pour lui, c'était une espèce de.
C'est un vrai débat.
On va contrôler un peu les choses, encore, pour 20 minutes.
Cette microculture bourgeoise milanaise, c'était quelque chose de complètement mystérieux. Alors je commençais à écrire les mots de mon enfance et je me suis rendu compte que j'écrivais, je lui apprenais pas l'italien, je lui apprenais mon italien, mon idiolecte, le lexique de, fondamentalement de mon milieu social, de ma mère, de ma ville. Et donc je me suis rendu compte à quel point on est attaché. D'abord, on est tous d'une certaine façon des réfugiés de notre enfance, enfin cette espèce de paradis perdu, des terres saintes qu'on perd tous, une expérience qu'on partage avec justement les sans-papiers, les réfugiés, on a tous perdu. Et c'est un monde qui n'existe plus pour les autres. L'italien que les gens parlent aujourd'hui, ça m'intéresse pas trop, enfin c'est pas le mien. Enfin, c'est pas... Mais donc je n'ai jamais basculé dans la fiction, mais j'ai utilisé ce dictionnaire plutôt que comme une vérité indécente, comme une thérapie par la parole pour retrouver une enfance qui était quand même, qui est dans la fiction, ça veut dire l'enfance est dans la mythologie. Enfin, il y a une partie de l'enfance qui reste dans une mythologie personnelle. C'est comme.
On est d'accord. Alors, du coup, en vous écoutant tous les trois, je me posais une question, et une question d'ailleurs qui a plus ou moins. Dans laquelle nous a introduit Pierre Lemaître tout à l'heure, quand il pose cette question au fond de l'interdiction morale, hein, jusqu'où aller dans la fiction, et qui, au fond, jusqu'où a-t-on le droit d'aller, notamment en sciences sociales, jusqu'où a-t-on le droit d'aller dans son écriture? Je prends un exemple vraiment personnel, pardonnez-moi, en ce moment j'ai un projet d'Uchronie sur la Grande Guerre, j'ai essayé d'écrire un début de chapitre où les Allemands gagneraient la bataille de la Marne en septembre 1914, ce qui évidemment change la suite du siècle. Si l'Allemagne gagne la guerre en 14, eh bien, il n'y a ni nazisme, ni bolchevisme, ni génocide des Arméniens. On a donc un autre 20e siècle, on le recrée. Et en écrivant, je ne sais pas si ça donnera quelque chose ou pas, mais c'est un sentiment... à la fois d'extraordinaire plaisir et en même temps de plaisir défendu, ce qui évidemment ne fait qu'accroître le plaisir. Hein, c'est-à-dire l'impression de tenir un discours de vérité avec toutes les formes scripturaires du discours de vérité historien, les notes de bas de page, tout ce que l'on veut, et tout est faux. Mais en réalité, enfin tout est faux, mais évidemment vraisemblable. Il faisait juste un petit, comme dit Jean Rouault pour parler du moment où son histoire personnelle bascule dans la fiction, dans les champs d'honneur, il y a un cardan poétique. Il suffit de faire passer juste un cran au cardan poétique, et à ce moment-là, vous êtes dans une fiction, mais en même temps vraisemblable. Il suffit juste de pousser une date, presque rien, d'inverser un événement, et tout le reste s'enchaîne de manière parfaitement logique. Donc jusqu'où a-t-on le droit d'aller? Est-ce que les historiens, par exemple, les anthropologues, les philosophes, ont le droit de subvertir complètement, au fond, le régime de vérité auquel ils sont normalement soumis. Non seulement est-ce qu'ils en ont le droit, mais est-ce que ça leur fait du bien? Est-ce que c'est, d'un point de vue heuristique, important, indispensable? Est-ce qu'on doit se l'interdire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes d'écriture? Je ne suis pas certain qu'on ait tous les droits, pas du tout, mais jusqu'où peut-on aller? J'aimerais bien avoir l'avis de Pierre sur cette question. Justement, qu'est-ce qu'il nous donnerait comme droit?
Bon, peut-être que ma phrase tout à l'heure, qui se voulait humoristique, qui n'a fait rire que moi, naturellement.
Comme d'habitude, c'est
souvent
comme
ça. Et mon épouse, qui naturellement rit toujours de mes blagues, mais elle est bien la seule. Lorsque je disais que chacun doit rester chez soi, évidemment que chacun ne doit pas y rester, et qu'il n'y a rien de plus hautement réjouissant que la transgression. D'ailleurs, il n'y a pas de progrès sans transgression. Donc vive la transgression. Maintenant, la question que tu poses, c'est celle de la barrière morale. Moi, je ne suis pas bien équipé intellectuellement pour définir ce que c'est que la barrière morale. Je peux essayer de définir, par rapport à ma morale à moi, les choses que je m'autorise et celles que je m'interdis. Hein. Mais ce qui me vient en vous écoutant, alors peut-être que je fuis un petit peu la question que tu renvoies, mais tout à l'heure, j'étais frappé par le fait que, au fond, on met un petit peu sur le même plan l'écrit historique, le récit autobiographique, la véritable fiction, c'est-à-dire avec des personnages qui n'existent pas, hein, pour faire court, pour essayer de trouver une définition. Et tout ça, c'est de l'écriture, et on voit bien que de l'histoire à la fiction, en passant par l'autobiographie, on est dans un lent glissement, au fond, de l'autre vers soi, et à nouveau de soi vers l'autre. Enfin voilà, c'est un mouvement cursif. Et moi, ce qui me vient, c'est Je vais le dire comme ça, je ne sais pas comment faire autrement. C'est, en fait, vous en crevez d'envie. Voilà le truc. Si vous êtes des historiens, mais en fait, vous en crevez d'envie de faire de la fiction. Vous en crevez d'envie, et je vais vous dire, à mon avis, pourquoi ? C'est parce que vous écrivez tout le temps, vous passez votre temps à ça, et que, inévitablement, à un moment, on choisit pas par hasard le sujet sur lequel on va se spécialiser, on choisit pas par hasard le philosophe américain sur lequel on va travailler, on choisit absolument pas par hasard, donc rien que dans les choix de travail, les choix de sujet, on a déjà mis tellement de soi qu'au fond, quand on écrit sur ces sujets, on n'arrête pas d'écrire sur soi. Il y a un moment où ça doit être un petit peu frustrant et où, au fond, la tentation de se lancer dans le grand bain qui donnerait d'un seul coup toutes les libertés, c'est, je crois, une tentation qui doit saisir à peu près n'importe quel chercheur. Et moi, quand tu parles de la barrière morale et de savoir quels sont les territoires des uns et des autres, j'ai envie de dire allez-y. Allez-y parce que on a, nous, romanciers, beaucoup à apprendre de la manière dont vous arriveriez, vous, à la fiction. Nous, on sait par où on y est arrivé. On sait par où on y est arrivé. On n'y est pas arrivé par la théorie, on n'y est pas arrivé par le savoir, on n'y est pas arrivé par la connaissance. On y est arrivé par la littérature. Moi, je suis devenu écrivain parce que j'étais un lecteur, pas parce que j'étais psychologue ou parce que j'avais fait des études.
Il faut rappeler que tu étais psychologue.
Oui, voilà, j'ai fait des études de psychologie.
C'est une certaine importance.
Mais c'est pas ça qui m'a amené à la littérature. Ce qui m'a amené à la littérature, c'est que j'ai été élevé dans la littérature. Et donc, nous, on a beaucoup à apprendre de ceux qui, comme vous, faites le chemin inverse, qui partaient de l'histoire, qui partaient des sens sociaux. De n'importe quoi. Là, on a beaucoup parlé de l'histoire, mais on pourrait parler d'une manière plus générale des sciences sociales. Moi, je rencontre beaucoup de gens parce que j'essaye, quand j'écris mes livres, j'essaye de comprendre le territoire sur lequel je vais travailler. Donc, j'ai demandé à François Cusset de m'éclairer sur les années 90. J'ai rencontré Nicole Aubert parce que je m'intéressais à la question de la lisibilité dans les sciences sociales. J'ai souhaité rencontrer Tristan Garcia parce que je m'intéressais à des questions esthétiques pour un de mes romans. Et donc, moi, j'arrête pas de vous interroger. Et j'ai interrogé des historiens. Et même pour mon prochain roman, je me suis même permis le luxe, parce que maintenant, j'en ai les moyens, d'embaucher un historien, carrément. Comme ça, je me suis dit, j'ai plus m'emmerder. J'ai plus besoin de les inviter au restaurant. Et puis, ça va faire un salaire, parce que maintenant, j'ai les moyens de payer. Donc c'était très bien. Donc non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'invite beaucoup les gens à venir discuter avec moi quand je m'intéresse à un sujet romanesque, parce que vous êtes pour moi romancier d'une certaine manière une boussole. Là, je parle de frontières morales. Ce dont j'ai besoin, c'est pas tellement que les historiens ou les chercheurs en sciences sociales me donnent des renseignements techniques. On est encore là sur l'exactitude dont je parlais tout à l'heure. On l'a évacué assez rapidement. C'est d'essayer de comprendre le sens des choses. Et moi, en tant que romancier, j'ai en permanence besoin des sciences sociales. J'ai besoin de l'histoire pour mon avant-dernier livre, pour tous mes livres qui sont d'autres romans, des romans noirs. Eh ben, j'ai besoin de sociologues, j'ai besoin de philosophes, j'ai besoin de gens qui s'occupent d'esthétique, et j'ai besoin, moi, d'aller me ressourcer auprès d'eux, et je n'ai qu'une seule hâte, c'est que, puisque moi, je fais un chemin vers eux, ben, c'est d'attendre le moment où ils vont faire le chemin inverse, et où, au fond, ils vont se libérer du carcan relatif, hein, de l'écrit institutionnel, universitaire, encyclopédique, pour aller vers la pure fiction, parce qu'ils vont faire un chemin qui m'intéresse vigoureusement. C'est comment ils vont faire, et qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Pour l'instant, les résultats sont vachement encourageants.
Peut-être. Mais je vais te répondre ensuite, mais je voudrais d'abord avoir l'avis de Richard Reichmann sur cette question. Au fond, jusqu'où doit-on aller? Tu en penses quoi? Pierre a donné une réponse très claire, très encourageante, mais quel est ton point de vue?
Je pense qu'on est des chercheurs, donc des chercheurs sont des gens qui sont aussi des expérimentateurs. Ça dépend du projet intellectuel. Je crois que ça doit s'inscrire dans un projet... Enfin, dans mon cas, ça s'inscrit dans un projet intellectuel très clair par rapport à ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie de dire, de ce que je ne pouvais pas dire autrement. Encore une fois, en allant chercher là où je crois que aujourd'hui les sciences sociales ne vont pas suffisamment puiser, c'est-à-dire dans l'art... et dans la littérature, pour trouver des nouveaux moyens d'exprimer des matériaux qui relèvent du champ des sciences sociales. C'est un emprunt et c'est un enrichissement. On fait de la pluridisciplinarité dans tous les sens. On va emprunter aux historiens, on va emprunter aux psychologues, aux psychanalystes, à tel ou tel. Pourquoi n'irions-nous pas emprunter les méthodes d'un certain nombre d'écrivains? Pourquoi n'irions-nous pas emprunter les méthodes des performeurs aujourd'hui qui nous apprennent beaucoup de choses sur la façon de dire un certain nombre de des matériaux qu'on a envie d'exploiter. Donc ce qui va définir ce que l'on a à faire, si on accepte cette définition, eh bien, c'est le projet intellectuel sous-jacent. Dans mon cas, c'est cela. Et les limites, c'est s'il n'y a plus de projet intellectuel, eh bien, alors à ce moment-là, il faut se poser un certain nombre de questions.
Gloria, votre avis sur cette question de ce qui est permis?
Mais moi, d'abord, je ne réduirais pas la démarcation entre vérité et fiction.
On est d'accord.
Comme, je sais pas, vérité, les sciences sociales, fiction, les romans. Ma recherche sur la réputation, par exemple, a commencé en lisant un roman de Manuel Carrère, L'Adversaire, avec l'histoire de Jean-Claude Romain, qui tue toute sa famille pour ne pas avouer sa fausse réputation de médecin, etc. Et cette question sur les motivations humaines, je me dis, mais comment quelqu'un peut décider que tuer, enfin, dans un des modèles qu'on connaît, en théorie de la rationalité, théorie de l'action, en économie, l'action est rationnelle si, disons, si on accorde ses moyens à ses fins. Et là, quelqu'un qui tue toute sa famille, donc quelque chose de vraiment très coûteux, pour ne pas avouer un mensonge. Au fond, ça semble vraiment une violation d'une loi des sciences sociales. Donc, j'ai pris ça, et ça m'a énormément inspiré. Donc, disons, je pense que la littérature a tout à fait sa place comme source d'inspiration, mais non seulement aussi comme source d'expérimentation, comme vous disiez, surtout dans les frontières de la recherche, des choses nouvelles. Je pense à l'intelligence artificielle, où beaucoup d'intuitions sont arrivées avant dans la fiction, dans les films ou dans l'art, et après dans la réalité scientifique. Donc, je pense qu'il y a, il faut juste poser les bonnes questions. Enfin, on peut pas demander à un roman de dire la vérité historique sur la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Enfin, mais si on lui pose la bonne question, un roman peut nous informer pour nos recherches.
Non, je suis bien d'accord. Évidemment, on est tous d'accord, je pense, ici, pour dire que toutes les expérimentations sont possibles, souhaitables, nécessaires. Sinon, on ne ferait pas des sciences sociales, ni de la littérature, d'ailleurs, évidemment. Et tous ici, au fond, nous sommes comme Chateaubriand, hein, nous sommes pour toutes les libertés. Mais il y a quand même une question qu'il faut poser, qui est un peu pénible, un peu difficile, mais je vais la poser pour finir. C'est sommes-nous capables? Je parle des gens de sciences sociales. Il y a quelqu'un qui a répondu non, déjà. C'est quelqu'un qui, pourtant, est sans doute particulièrement disposé à pouvoir franchir ses limites. C'est Mona Ozouf, grande historienne de la Révolution française et de la fête révolutionnaire, à qui la culture littéraire est immense, poétique en particulier, et qui un jour, une journaliste dit, enfin, vous, madame, qui avez une culture si vaste, très au-delà, bien sûr, de votre formation philosophique et historique, pourquoi ne passez-vous pas à la fiction? Et Mona Ozouf lui répond de manière vraiment impitoyable, vous savez, faire un livre d'histoire, en l'occurrence, faire un livre d'histoire sérieux, honnête, utile, c'est possible. Mais faire un grand roman, ça, c'est vraiment très très difficile. Disons elle-même, donc elle ne s'estimait pas capable. Et donc la question que je pose, c'est sommes-nous capables? Et je pense que, évidemment, elle n'est pas très indulgente pour nous, mais je pense qu'il faut la poser. Parce que là est quand même le point difficile. Enfin, pour moi, c'est le point difficile. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre?
J'apprécie pas trop ce que dit Mona Ozouf là.
Ah oui, moi j'aime bien. Personnellement,
oui. Non, mais moi je suis pas fou de cette phrase. Elle me gêne un peu. D'abord parce que
elle est gênante, ça, je suis d'accord avec toi.
Oui, elle est gênante. Et puis moi, en tant que romancier, je la trouve franchement vexante. en fait, elle a l'air de dire qu'au fond, comme il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus de bons romans. Enfin, elle va pas.
Voyez, ah, bon, j'ai l'impression qu'elle me balaye. On est en plein péché d'orgueil, on est d'accord.
Oui. Bon, alors en même temps, je suis d'accord avec toi. Tu connais la phrase de Vallès, hein. On ne devient pas écrivain par excès de modestie, hein. Bon. mais si tu veux, là, je trouve quand même que Mona Ozouf, pour qui j'ai une grande admiration, un immense respect, je trouve quand même qu'elle exagère un peu, hein. Et donc, à l'occasion, tu lui diras de ma part.
Très volontiers.
Moi, je pense pas comme elle. Je pense que la littérature, elle doit s'enrichir, me semble-t-il, de toutes les énergies disponibles et tous ceux qui veulent le faire. Et il me semble que la question de la qualité n'est pas une question à se poser au départ, mais une question à se poser à l'arrivée. Je pense qu'il faut d'abord une intention. Il faut d'abord un projet. J'aime bien cette idée de projet. Alors, le projet peut être un projet de fiction, un projet littéraire. Moi, je trouve que chacun a sa place dans la littérature, et ceux qui ont la chance, la formation, pour avoir, enfin, qui disposent de l'équipement nécessaire pour nous raconter l'histoire, ont l'équipement pour nous raconter des histoires, et que la question de la qualité est une autre question. C'est après la question du style, la question de la construction, tout ça il faudrait détailler. On peut pas, comme Naouzouf, simplement le balayer d'un revers de main. Je trouve que c'est une jolie phrase, mais c'est pour VSD, hein.
Oui, mais ou non,
voilà,
ben, c'est voilà. C'est Chateaubriand ou rien. Ouais, c'est une chose qui...
Voilà, c'est ça que j'appelle
évidemment. SD. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En une minute chacun, Richard et Gloria, après il nous faudra malheureusement clore ce débat qu'on pourrait poursuivre pendant plusieurs heures, mais en tout, outre le fait qu'il faut ensuite procéder à la remise des bourses du Fonds Dotation, Pierre Lemaître doit nous quitter. Donc cette question au fond, le peut-on ? Toi tu dis oui, puisque tu l'as fait, mais est-ce que tu le referais ?
Ah, ça, c'est une autre affaire. on peut pas savoir.
Est-ce que tu vas le refaire?
On peut pas savoir. Je pense que c'est contrairement à ce que dit Naouzouf, c'est une question de désir. Soit on a le désir, soit on l'a pas. Alors, on peut avoir un désir contrarié. Il y a des psychanalystes qui s'occupent de cela. Et on peut,
il y en a beaucoup dans ton cabinet, monsieur.
Non, mais on peut passer sa vie aussi à avoir un désir et de ne pas se l'autoriser. Et puis, on peut se l'autoriser à un moment. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur de son espoir, mais c'est pas le seul cas. Je crois que la question principale est celle de se l'autoriser. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Je pense que bon nombre de gens qui travaillent avec l'écriture ont à un moment l'envie de s'échapper du carcan qu'est l'écriture académique et peuvent avoir envie de la fiction. Ouais. Et que ça soit un vrai désir. Après, effectivement, on se pose la question. Je le fais, je le fais pas. Mais il y a plein d'autres cas où ça se pose la question. Je le fais, je le fais pas. Voilà. Je ne prendrai pas d'exemple. Vous avez tous en tête ce que je peux imaginer.
Gloria, vous concluez?
Je pense que vous devenez quand même trop accommodant. Il faut dire quelque chose de très méchant, comme la qualité compte énormément. Enfin, donc, si on écrit de la littérature, on gagne des prix Goncourt, c'est très bien. Mais si on écrit de la littérature, comme ça, amatorial, c'est très mauvais. Enfin, il y a déjà trop de livres dans le monde, donc pourquoi en faire un... Et pour le reste, enfin, je veux dire, est-ce que ces deux régimes, enfin, pas des régimes de vérité, c'est deux régimes des droits qui sont tellement différents. Et cette distinction, il faut la garder. Je peux m'inspirer de la littérature, mais lorsque j'écris comme littéraire, je suis dans un autre régime des droits d'auteur. Une distinction qui commence au XVIIe siècle, enfin, sur laquelle d'ailleurs je travaillais. Les droits d'auteur n'existent pas pour les scientifiques, enfin pour les chercheurs, parce que nos découvertes sont sur la nature. Et les découvertes sur la nature ne sont propriétés à personne. C'est pour ça que avoir du prestige dans la recherche, c'est écrire des articles peer-reviewed. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont peer-reviewed, qu'ils ne sont pas payés? Je veux dire que vous n'avez pas des droits d'auteur sur ça. Enfin, c'est ça la différence. Donc, c'est deux régimes des droits plutôt que deux régimes de vérité. Donc, je pense qu'on peut bien sûr passer d'un régime à l'autre. Mais c'est deux régimes qui restent profondément distincts, enfin.
Merci Gloria Ruggi. Donc, on va rester sur cette phrase finale. Je remercie vraiment mes invités, Pierre Lemaître, Richard Eschmann, Gloria Ruggi. Merci.